C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, chers amis, tout le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu et tout le suivant, qui est conclu par l'évocation du jugement dernier, sont comme un recueil d'avertissements solennels de Jésus adressés à ses disciples qui viennent de l'interroger avec angoisse parce qu'il leur a annoncé que le temple de Jérusalem serait entièrement détruit, qu'il n'en resterait sur place pas une seule pierre. Alors ils l'ont quasi supplié. « Dis-nous, quand cela aura lieu ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Notez bien qu'ils ne lui demandent pas seulement la date de la future destruction du temple. Ils veulent savoir à quoi on pourra reconnaître à la fois sa venue à lui et la fin du monde. Et cela signifie clairement que pour eux, dans leur foi de fils d'Israël, la destruction du temple et cette mystérieuse venue de Jésus seront liées à la fin de toute la création visible. Néanmoins, Jésus ne va pas répondre quant à la date de la destruction du temple, un événement pourtant proprement catastrophique pour tout juif pieux et fervent. Il ne va pas davantage répondre quant à la date de sa mystérieuse venue personnelle. Mais il va prophétiser que la destruction du temple entraînera avec elle une panique et que profiteront de cette panique des faux Christ, des faux Messie, menteurs, affabulateurs. Mais ce ne sera pas encore la fin, précise-t-il. Quelle sera donc cette fin, selon lui ? Non pas la fin du monde comme nous la représentons surtout depuis le Moyen-Âge, à savoir un cataclysme physique qui mettrait soudainement fin à toute vie, à toute activité sur Terre, comme dans tout l'univers visible. Les images employées par le Christ peu avant le passage proclamé aujourd'hui évoquent l'obscurcissement du soleil et la chute de toutes les étoiles. Attention, c'est un langage codé, culturellement codé, et non pas un pronostic à prétention scientifique. À l'époque, et pour toute l'Antiquité jusqu'au seuil des temps modernes, les astres et les étoiles étaient universellement regardés comme des réalités éternelles. Et les non-juifs les vénéraient comme des dieux. Annoncer leur défaillance revient à désacraliser toute réalité visible, à dire que le monde passe, que Dieu seul est éternel, que lui seul est le Créateur et donc l'unique possible sauveur de sa création. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Ainsi donc, la fin totale, définitive et parfaite, la seule, ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la venue de celui qui s'est donné le nom de Fils de l'homme. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de se désigner ainsi ? L'appellation renvoie à une figure énigmatique de l'Ancien Testament, un être humain choisi par Dieu, qu'il élève jusqu'à lui dans sa gloire. Mais elle est aussi une façon toute simple et humble de Jésus d'avoir voulu accomplir toute son existence personnelle terrestre comme un fils d'homme parmi les hommes. Elle est enfin, je pense, sa manière de projeter sa personne dans un temps futur qui en réalité dépassera tous les repères de temps, c'est la venue dans la gloire et pour toujours du vainqueur de la croix. Comment recevoir, nous hommes et femmes d'aujourd'hui, comment recevoir dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos vies cet évangile que nous venons d'entendre ? Et en quoi est-il évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, nouvelle heureuse. Vous le reconnaîtrez avec moi, il est devenu assez démodé de nos jours et sous nos latitudes que des individus se mettent soudain à proclamer « Je suis le Messie, le Christ, et venez à moi si vous voulez échapper à la fin des haricots ». Mais il n'est pas improbable que ça ne revienne pas à la mode un jour ou l'autre, en rapport en particulier avec des annonces alarmistes sur l'état de santé du Soleil et de notre planète. Que devons-nous faire alors ? Clairement et résolument distinguer les deux, la venue finale du Christ et le soin de la création, la lutte contre tous les dérèglements physiques dus à nos inconsciences. Encore une fois, ne pas courir ici ou là pour espérer y rencontrer le Christ, mais nous rendre disponibles à l'accueillir ici où nous nous trouvons, ici où nous vivons, où nous travaillons, puisqu'aussi bien c'est lui qui vient à nous et non pas nous qui pouvons venir à lui. Périodiquement, dans leur histoire déjà longue, les chrétiens ont été tentés de se préparer à accueillir Jésus dans sa gloire en se mettant à l'écart des autres humains, soit pour fuir leur persécution, soit pour se prémunir de la contamination de leur mauvaise conduite. Mais Jésus dit bien, avec des images agricoles de son temps, « Deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. » C'est au milieu même des humains, comme lui-même en a montré l'exemple, que nous sommes appelés à l'attendre, à veiller à son accueil. Au temps où il fallait garder les cités contre des ennemis potentiels, ce fut le cas pour la cité du Mans, vous le savez, les veilleurs qui gardaient les portes des villes ne se trouvaient pas en dehors de celles-ci, loin de leurs murs de protection. Ils se trouvaient bien sûr aux portes mêmes et sur les remparts. Eh bien, il nous faut maintenant, c'est indispensable, clarifier le sens de cette fameuse venue comme bonne nouvelle. Comment Jésus a-t-il pu parler de sa venue devant d'autres humains à qui il était déjà venu, puisqu'il était en train de leur parler en direct ? Jésus n'est-il pas venu en chair et en os ? Et il s'est fait homme, ce que nous célébrons à chaque fête de Noël. Oui, tout à fait, il est venu. Mais qui l'a reconnu pleinement dans sa totale identité ? Un certain Jésus de Nazareth qui est mort et que Paul prétend être vivant. Voilà tout ce que connaissait de lui un haut fonctionnaire romain, un successeur de Ponce Pilate. Voilà l'homme, avait dit lui-même Pilate, par dérision, en présentant à une foule Jésus sanguinolent, couronné d'épines enfoncées dans la tête. Oui, il est venu. Mais c'est dans le clair-obscur de la foi qu'il a été et qu'il est encore connu. Et il l'a voulu ainsi, car nous sommes dans le temps de la liberté de croire en lui ou pas. C'est pourquoi il viendra tout aussi définitivement qu'il y a plus de 2000 ans, mais cette fois dans la gloire, et son règne n'aura pas de fin. Comment donc ne pas désirer ce jour-là, au-delà de tous les jours, ce jour d'éternité, où il est bien dit dans l'Écriture qu'il essuiera toute larme de nos yeux, où il rendra toute justice à l'amour consenti et offert. Notre désir donc ne peut consister qu'à aimer de son amour même, ici et maintenant, dans la vive espérance tenace d'être un jour pris par lui en son paradis, et non pas laissé à nos péchés, nos inconsciences et nos égarements. Il est venu, il viendra. Tel est bien le double sens du temps liturgique de l'Avent, en tout cas chez les chrétiens latins, catholiques et protestants et anglicans, mais qui comporte un troisième indissociable des deux, il vient, c'est-à-dire qu'il se donne déjà mystérieusement à reconnaître pleinement comme « mon Dieu, l'humble Jésus, dans la plus ordinaire de toute vie terrestre. J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'étais malade et tu m'as accueilli. » Et n'allons pas chercher loin d'ici cet accueil du Christ dans les plus démunis, les plus souffrants. Sur une sollicitation d'une association qui compte des chrétiens, Tarmac, Nos paroisses mettent une suite de pièces du sous-sol de l'église Saint-Liboire à disposition pour l'hébergement de nuit de 15 personnes sans domicile, à compter de demain et jusqu'au début d'avril prochain. Et vous allez pouvoir vous associer à cet accueil, par exemple en vous proposant pour préparer une soupe de temps à autre ou la servir autour de 20 heures. Des détails vous seront fournis à la fin de la messe. « Voici, je viens, dit le Seigneur. » Amen.